Jean-Bernard Leroy. Voici donc mon exposé du mois de septembre. Ce sera sur la naissance des jésuites. Saint Ignace avait écrit ses exercices dans un but pratique. Une de ses devises était « L'homme a été créé pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et par là obtenir, je ne dis pas mériter, obtenir la vie éternelle. » Comme moyen, il insistait sur les efforts personnels. Il faut que l'homme se prenne en charge lui-même, tout en restant convaincu de la nécessité de l'aide de Dieu, qui d'ailleurs ne lui manque jamais. L'homme doit se transformer en toute liberté, une liberté qui est un cadeau de Dieu, même si ce cadeau n'est pas sans danger. Luther s'en méfiait et préférait parler de prédestination. Après son séjour en Terre Sainte, Ignace changea la direction de sa vie. Plutôt que le service armé, il décida d'agir sur les âmes pour leur instruction, voyant dans ce rôle la vocation à laquelle Dieu l'appelait. Il décida de se perfectionner dans ce sens et prit des leçons de belles lettres pendant 2 ans. Il imitait ainsi sa vie contemplative, ce qui fut un réel effort, voire un sacrifice. Il attira un grand nombre d'âmes, ce qui lui causa un certain effroi. Il allait prier dans un couvent de dominicains qui faisait preuve d'un certain relâchement dans l'observance de la règle. Ses sœurs furent frappées de l'intensité de la ferveur, de la dévotion de saint Ignace. Ce dernier leur proposa des entretiens au parloir. Le couvent finit par être profondément réformé. Ignace venait à se montrer exigeant dans le fond, mais doux dans la forme, ce qui permet d'aller plus loin dans l'union avec Dieu, car si la forme implique toujours des limites strictes, parfois rigoureuses, on peut estimer avoir atteint le but une fois ces limites atteintes. Mais saint Augustin a bien dit « La seule limite de l'amour est de l'aimer sans limite ». Cela est vrai même dans l'amour conjugal qui n'a rien d'un simple cahier des charges. Il n'aime pas beaucoup celui qui peut penser qu'il a assez aimé, suffisamment aimé. Saint Ignace partait ensuite pour Alcala, une université renommée dans toute l'Europe. Il y fit examiner ses exercices afin de faire constater qu'il ne contenait aucune proposition hérétique. Il en fit de même à Salamanque, où professionnaient plusieurs cardinaux qui devaient participer au Concile de Trente, dont l'enseignement était très prisé et qui se chargeait de l'instruction de Philippe II et de Charles Quint. Puis, de Salamanque, Ignace alla à Paris, où 42 collèges avaient orné la montagne Sainte-Geneviève dans le quartier latin. Pendant qu'on examinait son livre, on avait mis Ignace dans un cachot, lui reprochant sa manière de distinguer le péché véniel du péché mortel. La Sorbonne était réputée comme le lieu des intelligences les plus illustres. On y trouvait Ronsard, Baïf, Jean Dorat, membre de la Pléiade, leur maître et aussi celui de Dubélé. Il faisait des vers en latin. Dès son arrivée à Paris, la petite somme que possédait Ignace lui a été volée. Comme étudiant, il menait une vie frugale. Il habita quelque temps près du cimetière des Innocents et compta parmi les gueux. Puis il entra à Saint-Rémy, où il eut la même chambre que Saint-François-Xavier. Il fut enfin reçu licencié de philosophie. La Sorbonne condamna Luther dans un premier temps parce qu'elle considérait toute innovation comme une erreur. Dans le même temps, François Ier créa le Collège de France afin de répandre et de diffuser la science, de favoriser en quelque sorte une instruction laïque, au sens moral du terme. On mettait le grec à l'honneur, cette langue se répandit. Bernard Palissy faisait des cours de physique et des exposés sur le climat. Ignace réunit ses premiers compagnons formés par les exercices et leur fit envisager d'une manière pratique ce que leur intelligence avait étudié, leur montrant qu'il ne suffit pas de comprendre les choses pour les faire entrer dans sa vie. Avec ses compagnons, il avait d'autres objectifs que de se donner aux âmes. Il ne savait pas exactement ce qu'il ferait, mais ils décidèrent de se donner à cette tâche pour toujours. Ignace s'est réuni donc à Montmartre le 15 août 1534. L'un d'eux, Lefebvre, venait d'être ordonné prêtre. Les six hommes se consacrèrent à Dieu avec la pensée de se livrer pour toujours, de faire du bien là où ils seraient appelés. Ce fut la naissance de la Compagnie de Jésus. Ignace avait conscience de l'importance de l'enseignement parlé, souvent plus efficace qu'un simple livre. Il repartit pour l'Espagne et voulut retourner en Terre Sainte, mais il en fut empêché par la guerre contre les Turcs. Il se rendit donc à Venise, où il fut ordonné prêtre le 24 juin 1537. Il cherchait quelque appui pour ses exercices, mais il rencontra beaucoup d'obstacles à Rome auprès de personnages pourtant pieux et zélés. Il n'avait pas l'appui d'hommes importants comme les cardinaux Carafa, le futur Paul IV, qui détestaient les Espagnols. Pourtant, un autre cardinal, Giudicioni, fit venir Ignace pour examiner avec lui cette doctrine dont il se défiait. En faisant le catéchisme, Ignace recommandait de ne pas chercher à faire de belles phrases, mais simplement à faire aimer Jésus le plus simplement possible et à ne montrer comme but que lui. Après une longue réflexion, le cardinal Giudicioni, ayant tout lu, tout pesé, vit disparaître ses objections. Il présenta le décret d'approbation. La Compagnie de Jésus fut reconnue le 27 septembre 1540. Le titre de soldat de Jésus-Christ fut discuté, celui de Compagnie de Jésus accepté et ses services agréés en Italie. La devise était « Ad majorem Dei gloriam », à faire connaître et aimer Jésus en nous et par nous, à faire glorifier Dieu en soi par des œuvres bonnes, afin de glorifier Dieu. Si le but est saint, il ne peut être atteint que par des moyens libres et saints. Ad majorem Dei gloriam implique aussi la sainteté des moyens dans la sincérité et la persévérance. L'Église avait besoin de secours en ce moment précis. En 1534, Calvin est chassé une première fois de Genève. L'année suivante, il publia son livre sur la Réforme, avec comme titre l'Institution chrétienne, un livre écrit dans un excellent français, dans une langue vive, aérée et nerveuse. Là, c'était la naissance du calvinisme. Après le retour rapide de Calvin, Genève devint une sorte de séminaire des missions étrangères, un instrument des grandes propagations du calvinisme. En France, Théodore de Bèze, en Italie, en Flandre et en Écosse. L'abbé Huvelin narre le cas d'un Italien général des Capucins, qui s'appelait Ochino, un homme de grand talent qui aimait beaucoup Sainte-Catherine, un théologien pourtant réputé pour ses opinions bizarres, mais il était très austère, mais fut contaminé par l'orgueil. Il abandonna peu à peu l'oraison, en disant « Agir, c'est prier. On a pourtant besoin de prière pour se refaire. » Il demanda une dispense pour ne plus avoir à réciter le bréviaire. Il écouta de plus en plus sa propre voix, et ce n'est plus guère guidé que par son imagination. Il quitta son ordre, se maria et parcourut la Suisse. En Pologne, il prêchait la polygamie. Cela est le type même de là où peut vous mener l'orgueil. Et l'orgueil est la simple contemplation de soi. Ce ne fut pas la seule défection. En France, il y en eut, entre autres, la défection du cardinal de Châtillon. La venue de saint Ignace était tout à fait à propos. Voilà, c'est un peu plus court que d'habitude. La prochaine fois, nous étudierons la suite de ce XVIe siècle qui fut extrêmement, extrêmement mouvementé. À bientôt. Je vous souhaite une bonne rentrée.